Le journal vous est présenté par Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. Des lits pour sauver l'hôpital. Au bout de 6 mois de grève, la ministre va-t-elle céder ? Agnès Buzyn et la suite du plan d'urgence annoncé demain. Quelques pistes déjà. Plus de lits, plus d'argent. Une réforme de la tarification. Promesse en l'air ou fin d'un système. On essaiera d'y voir clair dans un instant. Les profs en formation obligatoire. 5 jours par an sur leur temps de vacances. Le décret est passé aujourd'hui. La goutte d'eau, préviennent les syndicats. Dans l'actualité aussi, les rentrées politiques en pagaille, objectif municipal avec la REM en université d'été à Bordeaux, Marine Le Pen sur ses terres d'Hénin-Beaumont et le PS dans l'Hérault. Les élections à Moscou, le boycott lancé par l'opposition sera-t-il suivi ? Et puis aussi le cultissime Club des 5 version BD. Enfin les sports de la Formule 1, victoire de Charles Leclerc en Italie sur Ferrari, du tennis aussi avec le duel final de l'US Open ce soir, Nadal-Medvedev. Intersport, c'est dans un gros quart d'heure.
France Inter.
Plus de la moitié des urgences toujours en grève, le mouvement le plus long de l'histoire du secteur après la grève des infirmières en 98. Sauver l'hôpital, mettre fin à la contestation, la ministre de la Santé Agnès Buzyn présente demain la suite de son plan d'urgence et visiblement compte passer la vitesse supérieure.
Tout est sur la table, notamment sur la tarification des hôpitaux. Je l'ai dit dès le départ, l'hôpital n'a pas vocation à fonctionner comme une entreprise. Je vais apporter des moyens, mais je ne commence pas par dire voilà, je mets de l'argent sur la table, sans avoir d'abord fait le bon diagnostic et proposé les bonnes solutions.
Le diagnostic, on l'a fait.
Mais pas simplement pour financer des postes en plus dans les urgences, parce que c'est reculer pour mieux sauter. Et donc, je vais mettre de l'argent dans des solutions pérennes, restructurantes, qui vont régler le problème
des
urgences sur le long terme.
Agnès Buzyn, ce midi, dans Questions politiques avec Ali Badou sur France Inter, est-ce un tournant ? La ministre, en tout cas, serait prête, dit-on, à faire sauter le dogme des fermetures de lits à tout va. Mais pour ça, Lisa Guyenne, bonjour.
Bonjour.
Pour ça, il faut des millions d'euros.
Oui, l'enveloppe pourrait dépasser les 600 millions d'euros répartis sur 3 ans, selon nos confrères des Échos. La ministre n'a confirmé aucun chiffre aujourd'hui. Elle réserve la primeur de ses annonces aux soignants qu'elle rencontrera demain après-midi. Mais elle a tout de même concédé quelques pistes ce midi. Il y aura bien un budget dédié spécialement à la crise des urgences. Vous évoquiez la fin des fermetures de lits. Eh bien, c'est l'une des revendications fortes du mouvement et il pourrait en effet y avoir des réouvertures au cas par cas suivant les régions. Autre grand dossier, le fonctionnement financier de l'hôpital. Agnès Buzyn voudrait mettre fin à la tarification à l'acte, ne plus rémunérer les hôpitaux en fonction du nombre de passages, ce qui permettrait d'éviter une course à la rentabilité qui pousse les hôpitaux à accueillir toujours plus de patients. À la place, ça pourrait être un forfait en fonction du temps passé ou bien des tarifs définis selon le type de pathologie. Toutes ces mesures seront détaillées demain, mais seront-elles suffisantes pour les grévistes ? Ils envisagent en tout cas de nouveaux arrêts maladie groupés s'ils n'obtiennent pas satisfaction.
Et on devrait voir rapidement si ces mesures répondent aux attentes. Assemblée générale des grévistes après-demain mardi. Merci Lisa Guyenne pour les précisions. 1500 morts de plus que la moyenne en juin-juillet et des victimes pour la plupart de plus de 75 ans. C'est lié à la canicule, a aussi expliqué la ministre de la Santé ce midi sur France Inter, mais c'est 10 fois moins qu'en 2003. Et voici un décret publié aujourd'hui qui risque de faire beaucoup de bruit chez les enseignants. Des formations obligatoires sur leur temps de vacances, 5 jours sur l'année contre un peu d'argent. Consulté en juillet, tous les syndicats avaient voté contre. Qu'importe, le décret vient de passer. Une charge de plus qui peut paraître anecdotique, mais qui commence à peser lourd dans un emploi du temps déjà bien chargé en cette année de réforme, selon Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU.
On a déjà une réforme du lycée qui a été imposée, qui cause de nombreux problèmes, alors qu'il fallait réformer le lycée et le bac, mais pas de cette manière-là. Qu'on a des nouveaux programmes pour toutes les disciplines et tous les niveaux au lycée, donc une bonne partie des vacances d'été a été consacrée justement à la préparation de ces nouveaux programmes. Le ministre a, sur la question de la revalorisation des enseignants, voté en touche en vendant 300 euros annuels, bien sûr, hein, qui ne sont que le fait de l'ancien gouvernement. Donc tout ça exaspère déjà les professeurs. On sait qu'il y a une crise de recrutement qui perdure du fait de la faiblesse des salaires, de la dégradation des conditions de travail. Là, toucher en plus au congé, vouloir imposer la formation pendant les congés, évidemment très mal perçu.
Frédéric Rollet du SNES-FSU répondait à Delphine Evenoux. La République en marche est la carte du grand rassemblement, histoire d'apaiser une majorité crispée par les municipales et les dissidences. Pour la clôture de l'université
d'été à Bordeaux tout à l'heure. Édouard Philippe, le Premier ministre, a tendu la main aux partenaires de tous bords, comme le Modem. On a vu François Bayrou en soutien à ses côtés. Ouverture aussi aux opposants jugés Macron compatibles, car la REM vise les 10 000 conseillers municipaux, quitte pour cela donc à soutenir des élus qui viennent d'étiquettes différentes, comme à Nice ou à Toulouse. Plus au sud et plus à gauche, la fête de la rose de Maraussan, près de Béziers, dans l'Hérault. Les socialistes ont écouté Bernard Cazeneuve cet après-midi. Réinstaller le PS sur l'échiquier politique d'ici 2022 et la prochaine présidentielle, l'ancien Premier ministre y croit encore. Laurence Perron sur place pour France Inter.
Tous pour chacun, chacun pour tous. La devise inscrite en grosses lettres rouges sur le fronton de la cave coopérative inspire manifestement l'ancien Premier ministre.
Ça peut inspirer utilement ceux qui ont du mal à comprendre qu'on est plus fort quand on est ensemble.
Philippe Martin, éphémère ministre de l'écologie de François Hollande, ironise.
Le truc, c'est de trouver le 1.
Devant un banc d'anciens ministres et d'élus hollandais, mitterrandistes madrés et de militants énamourés, Bernard Cazeneuve attaque direct.
Je vous vois ici désireux que l'on sorte de cette page où l'on estime qu'on ne peut pas faire de la politique autrement que dans la malveillance à l'égard d'autrui, surtout si autrui est composé de camarades. Moi, je veux être dans la bienveillance et dans le rassemblement.
Une heure et demie d'un discours clairement de campagne où il attaque la République libérale, verticale et technicienne, dit-il, d'Emmanuel Macron.
Libéral, technicien, vertical, ce pouvoir fait aussi un pari dangereux en cherchant à réduire tout à un affrontement entre progressistes et populistes.
Un New Deal écologique, une République juste, haro sur la réforme des retraites, la privatisation d'ADP et l'Europe des disciplines. Alors oui, bien sûr, officiellement, il n'est candidat à rien.
Moi, je serai à vos côtés pour les idées, je ne serai pas à vos côtés pour moi-même. C'est là aussi le serment de Maraussan. Vive la gauche, vive le socialisme et vive la République.
Pas une déclaration de candidature, donc une offre de service alors.
Laurence Perron chez les socialistes dans l'Hérault. La rentrée politique encore. Et l'autre image du jour, c'est Marine Le Pen sur ses terres à la braderie ce matin d'Hénin-Beaumont. La présidente du Rassemblement National siffle le début de la bataille et surfe sur la vague des gilets jaunes.
Par la brutalité de son programme, le pouvoir a heurté et inquiété. Par ses méthodes, il a humilié, brutalisé. Les mutilations des manifestants de l'année dernière, tragique fait d'armes de l'indigne M. Castaner, reste une marque indélébile du quinquennat Macron. Derrière les sourires de jeunes premiers et les postures de bat-à-mort, c'est l'image de notre pays qui a été abîmée. On a vu des chars dans Paris, on a vu des policiers armés de pistolets mitrailleurs pour faire face à des Français. Ces dérives antidémocratiques constituent une faute éthique, une faute impardonnable que nous ne voulons plus revoir.
Un objectif donc pour la présidente du RN, les municipales, et une cible, on l'entend, Emmanuel Macron. Marine Le Pen était au micro de Simon Le Baron. Il y a eu les manifestations et la répression de l'opposition, mais ça y est, en Russie, c'est le jour du vote. 16 gouverneurs régionaux, 13 parlementaires locaux. Le taux de participation est le véritable enjeu du scrutin. Une partie de l'opposition avait appelé au boycott. Claude Brouillot, vous êtes notre correspondant à Moscou. Que disent les tout premiers chiffres ce soir ?
Alors Hélène, ce que l'on sait déjà pour ce qui concerne Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux grandes villes évidemment les plus médiatisées concernant ce scrutin, l'une en raison de son statut de centre du pouvoir et l'autre parce que c'est la ville de Vladimir Poutine, eh bien, c'est que le taux de participation était très faible en milieu d'après-midi dans la capitale russe, avec seulement 12% de votants, et ce n'était guère mieux à Saint-Pétersbourg, avec seulement 16%. Ces faibles taux donc de participation partielle, s'ils se confirment, valideraient en quelque sorte la stratégie d'une partie des opposants à Vladimir Poutine, qui ont appelé à boycotter ces élections locales. Ce qui est important de souligner aussi, c'est le désintérêt croissant des Russes pour la politique au moment où Vladimir Poutine entame sa troisième décennie à la tête du pays. Mais c'est vrai que face à l'absence de véritables représentants de l'opposition dite en dehors du système parlementaire, eh bien, dans ces scrutins locaux, à la fois les partisans du pouvoir et les opposants, faute d'enjeux, ont eu encore moins de raisons d'aller voter. Enfin, dernier point, si cette faible participation se confirme, elle poserait un réel problème de légitimité à celles et ceux qui seront élus, en raison évidemment de leur faible représentativité. Reste à savoir maintenant comment le Kremlin répondra à cette difficulté qui peut devenir majeure à l'approche des législatives de 2021.
Claude Brouillot en direct de Moscou, merci à vous. Boris Johnson n'a pas l'intention de demander de report du Brexit et il s'en tient à son projet quitter l'Union le 31 octobre. Ce sont deux de ses ministres qui font la mise au point après la démission de la ministre du Travail, Amber Rudd, cette nuit. Et alors que demain, la loi votée par la Chambre des Lords et qui demande
demande un nouveau délai à Bruxelles doit être validé par la reine. Bojo sera-t-il hors la loi s'il ne s'y plie pas? Pourrait-il démissionner? C'est encore une semaine chaotique qui s'annonce au Royaume-Uni. À l'étranger encore, en bref, une élection qui fait bondir de l'autre côté du Rhin, celle d'un militant d'un parti néo-nazi qui a pris la tête de l'assemblée locale à Waldsiedlung, une petite commune près de Francfort. Nommé grâce au soutien unanime d'élus locaux, conservateurs et sociaux-démocrates, les partis politiques allemands au niveau national réclament l'annulation de l'élection. Donald Trump, appelé à la rescousse, sera-t-il le héros des jeunes à Hong Kong? En tout cas, ils étaient des milliers dans les rues aujourd'hui, avec un changement de stratégie, puisqu'ils en appellent cette fois aux États-Unis pour que Washington intervienne contre le pouvoir pro-chinois et pour la liberté. Et ça s'est encore une fois mal terminé avec la police. Correspondance pour France Inter à Hong Kong, Stéphane Lagarde.
Des slogans en anglais, se battre pour la démocratie aux côtés de Hong Kong et une forêt de main levée, les cinq doigts bien tendus, cinq revendications, pas une de moins, scandent les manifestants au milieu des tours de verre du quartier Central, le quartier de la finance, des institutions au cœur de Hong Kong. Sur les avenues, les passerelles de béton, une marée humaine avance en direction du consulat américain. Au-delà du retrait de la loi d'extradition, c'est maintenant des libertés des citoyens dont il s'agit. Affirme Lo, étudiante, 24 ans.
Nous sommes là pour sauver Hong Kong et nous espérons que le gouvernement américain adoptera une loi pour aider les manifestants hongkongais. C'est très important car cela pourrait changer le cours des choses.
Parmi la foule, des jeunes en t-shirt noir mais aussi des familles, certains sont venus avec des drapeaux américains en espérant que le Congrès aux États-Unis donnera au traité économique liant Hong Kong à Washington une tournure plus politique. Pokémon sur l'épaule, Yena, 12 ans, est venue à la manifestation avec ses parents.
La Chine est trop forte, elle a de nombreuses armes et veut faire du mal à Hong Kong. Après, ce sera Taïwan. Nous avons donc besoin de l'aide de tous les pays et nous espérons que les États-Unis nous tendront la main.
Et la fillette de jouer l'air des misérables, l'un des tubes de cet été de la contestation, sur son lamellophone, son piano à touche, en espérant que le message sera entendu à Washington. Hong Kong, Stéphane Lagarde, RFI pour France Inter.
Héros de l'indépendance du Zimbabwe avant d'en devenir le dictateur, l'ancien président Robert Mugabe sera enterré avec des funérailles officielles samedi prochain, annonce de la présidence. Mugabe est mort vendredi, il avait 95 ans. C'est un peu la mère Teresa de Madagascar. Le père Pedro a créé là-bas il y a 30 ans une cité de l'amitié, un endroit où il scolarise les enfants et où il donne du travail aux exclus. Heureux le père Pedro de recevoir dans sa cité son ami et compatriote argentin, le pape François, sans doute le moment le plus fort de la visite.
C'est une grande joie, un grand réconfort. Après 50 ans de présence à Madagascar et 30 ans de combat quotidien auprès des plus pauvres ici, dans une décharge, et que le pape vient ici nous visiter dans notre village où nous avons tellement souffert, tellement pleuré aussi parce qu'il y avait tant de morts, tant de drames. Et bon, c'était une grande joie, un grand réconfort. Nous devons construire tous les ans une centaine de logements sociaux, tous les ans. Alors il faut avoir de l'argent pour ça. Et un logement nous coûte 7000 euros. Et nous devons faire chaque année une nouvelle école parce qu'il y a 500 enfants qui s'inscrivent chaque année. Et nous avons aujourd'hui déjà 14 453 élèves. Et les gens ne savent pas l'ampleur de cette œuvre. Ils pensent que c'est une petite œuvre. Non. Ici, tout ce que vous voyez, tout est fait de rien. Ici, il n'y avait rien. Il n'y avait que misère, pauvreté. Aujourd'hui, vous voyez un peuple debout, un peuple fier de lui-même, et un oasis d'espérance.
Le père Pedro à Madagascar avec notre envoyé spécial Bruce de Galzin. La pauvreté n'est pas une fatalité. Les mots du pape en sortant de cette cité de l'amitié tout à l'heure. Aigle Azur, en rade, faillite de la compagnie, annulation des vols et des milliers de passagers bloqués ce week-end qui ont dû racheter un billet. Aigle Azur a mis à leur disposition aujourd'hui un site qui explique les conditions de dédommagement. Dans l'incapacité de rembourser, la compagnie renvoie vers des mandataires judiciaires en accord avec les autorités. C'est un classique de la littérature jeunesse qui traverse les générations. Le club des cinq d'Enid Blyton, de la bibliothèque rose à la verte. On retrouve Claude et ses cousins, Michel, François, Annie, sans oublier le chien d'Agobert. Des enquêtes qui continuent de se vendre comme des petits pains. 200 000 exemplaires chaque année, mais depuis un peu plus de 10 ans maintenant, c'est aussi une BD. Et le troisième tome sort chez Robinson, le club des cinq contre-attaque. Jacqueline Pétrose.
En adaptant les aventures des jeunes héros de notre enfance, Béja et Nathel ne se sont pas trompés. Pourtant, la tâche n'est pas facile. Il faut donner un coup de jeune en restant fidèle et souligner la profondeur des personnages en 30 planches au lieu de 200 pages. Béja et Nathel.
Graphiquement, je me suis dit, je vais aller dans le sens où moi je le conçois, c'est-à-dire que on est quand même dans l'univers d'Enid Blyton. Ça démarre au tout début des années 50. Je ne voyais pas faire autre chose que que de le marquer dans son histoire.
Moi, j'adore à la fois respecter l'auteur et apporter ce qu'exige la bande dessinée. Donc, il faut transplanter, arranger, inventer, mais sans trahir.
Pour cette BD, Béja le fils et Nathalie le père ont retrouvé leurs enfances respectives et découvert un vent de liberté surprenant dans ce club des cinq.
Vous imaginez maintenant laisser des enfants aller prendre la barque, aller dans une île avec un vieux château, mon Dieu, et si une pierre tombait, ça j'adore ça, parce que c'est beaucoup plus proche de mon enfance.
Effectivement, ces enfants sont responsables. Et en plus, je trouve que ça apporte finalement, quand on le regarde aujourd'hui, une grande modernité.
Fraîcheur, intensité, aventure, ce Club des Cinq, comme son grand aîné, peut être lu de 7 à 77 ans.
Le Club des Cinq, contre-attaque de Béja et Nathael aux éditions Robinson. Enfin, la sécheresse et les vents dans le sud. Les pompiers étaient préparés. 2 feux de forêt ce soir dans le Gard et puis 4 autres dans l'Hérault. Feux de Garrigues et de Pinède. L'autoroute A9 a dû être coupée dans les deux sens entre Hague et 7. On rejoint tout de suite au PC Mobilité de Radio France. Diane Sprimont, est-ce que c'est toujours coupé cette A9, Diane ?
Oui, c'est toujours coupé. Et donc vous êtes beaucoup à emprunter la Nationale 112 entre Hague et 7. Bien, soyez patients parce qu'actuellement, il y a plus d'une heure de bouchon pour relier ces 10 kilomètres. Par contre, c'est mieux sur la 7. La circulation a repris dans les deux sens. Les deux voies sont rouvertes au niveau de l'Oriole dans la Drôme. Après un grave accident ce matin, bon, il y a encore de forts ralentissements. Plus d'une heure et demie si vous roulez au niveau de Savas pour arriver à l'Oriole sur Drôme. Et puis des grosses perturbations en gare de Marseille-Saint-Charles depuis 18h. La circulation des TER reprend progressivement, mais des suppressions de trains et des retards de 1 à 2 heures sont à prévoir.
Merci Diane Sprimont, en direct du PC Mobilité de Radio France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
C'est plus que frais, hein, c'est même froid, Jean-Pierre Hameau.
En fin de nuit, les températures seront souvent très fraîches et comprises entre 2 et 10 degrés. On attend 2 degrés à Reims comme à Nevers, pas plus de 4 degrés à Orléans et Limoges. Localement, vous pourrez observer de faibles gelées blanches. Les minimales seront un peu plus douces autour de la Méditerranée, prévoyez 11 à 17 degrés. Demain matin, une perturbation abordera la Bretagne et le Cotentin pour gagner lentement les pays de Loire et la Normandie en cours d'après-midi. Les pluies associées seront parfois soutenues. Partout ailleurs, après une matinée assez bien ensoleillée, les nuages vont s'installer en épargnant le sud et le sud-ouest du pays. Et bonne nouvelle, Mistral et Tramontane vont s'atténuer très nettement. En soirée, le front pluvieux s'étendra de la Normandie à la côte aquitaine. Une évolution rageuse est à surveiller. Des rafales de vent se produiront tout le long de la côte atlantique. Et puis côté température, les maximales resteront bien en dessous des moyennes de saison, avec des valeurs comprises entre 15 et 25 degrés du nord au sud.
19h17, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter, c'est l'heure d'Intersport. Bonsoir Thomas Larabie.
Bonsoir Hélène.
Alors on commence avec ce choc des générations en finale de l'US Open ce soir.
Oui, d'un côté la légende Rafael Nadal, de l'autre le tube de l'été, le jeune russe Daniil Medvedev. Fabrice Abgral, vous êtes en direct de New York à 3h maintenant du début de la rencontre. Une rencontre aux enjeux multiples, Fabrice.
Oui, c'est vrai, Daniil Medvedev va tout d'abord découvrir ce qui se fait de mieux en matière de tennis. Une finale en grand chelem, ce sera sa toute première pour ce moscovite de 23 ans qui réside à Monaco, mais qui depuis 5 ans s'entraîne à Cannes aux côtés de Gilles Servara dans une académie dirigée, qui plus est, par l'ancien joueur français Jean-René Lisner. Et à leur contact, Medvedev d'ailleurs a appris le français qu'il parle parfaitement bien. Medvedev est numéro 5 mondial, mais il est assuré de finir le tournoi à la 4e place mondiale. C'est le joueur de l'été, tout simplement. Depuis début juillet, il a fait finale à Washington et à Montréal. Il a remporté le Masters 1000 de Cincinnati et aujourd'hui, il est en finale de l'US Open où il a l'occasion de devenir le 3e russe vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. En cas de victoire, il rejoindra Yevgeny Kafelnikov, vainqueur à Roland-Garros en 96 et surtout Marat Safin, hein, qui a remporté à son époque l'Open d'Australie en 2005 et surtout l'US Open ici en 2000, il y a donc 19 ans. Alors Daniil Medvedev, je vous le disais, disputera sa première finale en Grand Chelem. Pour Nadal, ce sera la 27e, la 5e à New York, où il s'est imposé à 3 reprises. Il visera un 19e titre majeur. Vous savez ce que ça veut dire. Ça lui permettrait en effet, en cas de succès, de revenir à une longueur, une petite longueur du record de Roger Federer. Un record qui, du coup, serait donc sérieusement menacé. Et ça, dès l'année prochaine. Mais pour ça, il faudrait que Rafael Nadal batte Medvedev.
Merci Fabrice Abgral, en direct de New York. Et la seule fois où les deux hommes se sont rencontrés, c'était en finale à Montréal le 11 août dernier. Et le score était sévère, 6-3, 6-0 pour l'Espagnol. Pourtant, à en croire Gilles Servara, l'entraîneur de Medvedev, cette défaite peut être un atout pour son protégé. Écoutez.
C'est bien que Daniil l'ait joué il y a 3 semaines, parce que du coup, ça nous permet d'avoir certaines pistes, et c'est pas négligeable du tout, parce que jouer Nadal la première fois, c'est quand même une découverte immense. Donc c'est bien d'avoir pu jouer et perdre contre lui il y a 3 semaines. Contre Rafa, il y aura, quelle que soit la tactique qu'on veut mettre en place, on doit faire un match dantesque pour pouvoir lui passer dessus, quoi.
L'entraîneur français de Daniil Medvedev, Gilles Servara.
Et on n'arrête plus Charles Leclerc au volant de sa Formule 1.
Terminé, on ne l'arrête plus. Le pilote monégasque s'impose au Grand Prix de Monza cet après-midi, une semaine après sa victoire à Spa. Au volant de sa Ferrari, il devance les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, longtemps imbattable. Une victoire en Italie à la saveur particulière pour le jeune pilote, mais aussi et surtout pour la Scuderia Ferrari qui n'avait pas gagné depuis 9 ans dans son pays en Italie. La Formule 1 n'est pas spécialement connue pour la ferveur de ses supporters, mais écoutez Hélène, les tifosi de Ferrari après la victoire de Charles Leclerc cet après-midi.
On se croirait dans un stade de foot, ouais, dis
donc. Une ambiance de foot, de la folie. Donc 9 ans d'attente et le sacre d'un certain Fernando Alonso. À Rome, les explications d'Olivier Tosseri.
Les tifosi de la Scuderia exultent 9 ans que la Ferrari ne s'était pas imposée dans un Grand Prix d'Italie en Formule 1. Un succès qu'ils doivent à Charles Leclerc qui récidive une semaine après sa première victoire obtenue à Spa en Belgique. Le pilote monégasque monte sur la première marche du podium. Une victoire arrachée de haute lutte suite à une grossière erreur de son coéquipier Sébastien Vettel en début de course. Il se retrouve seul pour défendre les couleurs de la Ferrari. Rapidement en tête, il résiste aux assauts des deux Mercedes, du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, qui l'accompagneront finalement sur le podium. « Je n'ai jamais été aussi fatigué. La course a été très difficile », a immédiatement commenté Charles Leclerc avant d'ajouter « C'est un rêve. Gagner ici équivaut à remporter 10 Grands Prix ». La presse italienne ne tarit pas d'éloges sur sa victoire qualifiée d'impériale. Avec elle, il gagne désormais la première place dans le cœur des tifosi de la Ferrari. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et les Français Pierre Gasly et Romain Grosjean finissent respectivement 11e et 16e.
Allez, on passe au foot. Thomas, les Bleus tranquilles hein, hier soir face à l'Albanie, 4-1.
Oui, et dans ce match, c'est le Bayern Munich qui a fait tomber un record d'Arsenal vieux de 2010. Ce record, 4 joueurs de l'équipe de France évoluent actuellement sous les couleurs du club bavarois. Il s'agit de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et surtout Kingsley Coman. Kingsley Coman, l'homme du match hier avec un doublé et des arabesques qui ont fait tourner en bourrique la défense albanaise. Un doublé sous forme de renaissance pour l'ailier de 23 ans, longtemps miné par les blessures qui lui ont notamment fait rater la Coupe du Monde. Son partenaire en club et en sélection, Corentin Tolisso, tenait à lui rendre hommage cet après-midi à Clairefontaine.
Je pense que ça a été compliqué pour Kingsley. Après, voilà, je sais que c'est quelque chose de dur, donc je vais pas aller forcément lui parler de cette absence à la Coupe du Monde, mais j'ai vécu avec lui ces deux grosses blessures à la cheville. Et voilà, je sais que ça a été très très compliqué pour lui. Et de le voir aujourd'hui à ce niveau, et moi je le vois au quotidien, il est en très très grande forme, même à l'entraînement. Et ce qu'il fait depuis le début de saison, que ce soit avec le Bayern ou par rapport au match d'hier, c'est vraiment exceptionnel et j'espère qu'il va continuer comme ça. Comme je l'ai dit, les blessures, ça renforce mentalement et je pense que Kingsley est aujourd'hui très très fort mentalement et que ça l'aide avec ses prestations sur le terrain.
Et des blessures, il y en a eu aussi au cœur des supporters albanais hier lorsque l'hymne andorran a retenti par erreur au Stade de France. Une erreur accueillie par les sifflets. Le speaker veut rattraper le coup, il s'excuse alors auprès des supporters arménien, seconde erreur en forme de couac diplomatique qui est allé jusqu'en haut de l'État puisqu'Emmanuel Macron a présenté en personne ses excuses au Premier ministre albanais Edi Rama. Bruno Salomon, vous étiez au Stade de France hier soir. Comment un tel raté a pu avoir lieu?
Et c'est une triste erreur de mail qui a amené à ce couac très fâcheux et regrettable, nous dit-on à la Fédération. C'est en interne, à la FFF, un échange de plusieurs mails entre le service marketing et le prestataire sonorisation du Stade de France, avec à l'intérieur de ces mails un fichier audio avec les deux hymnes de l'Albanie et d'Andorre, d'où la confusion. D'ailleurs, on nous confirme qu'il y a bien eu répétition de protocole dans la journée de samedi, avec l'hymne andorran déjà à la place de l'hymne albanais. Personne à l'écoute n'a entendu l'erreur. Le protocole a donc été validé par l'UEFA pour au final arriver à ce gros raté. Mais en interne, on nous explique que, outre la diffusion du mauvais hymne, c'est vraiment la double erreur du speaker qui ne passe absolument pas. La voix du stade a parlé par deux fois d'hymne arménien au lieu d'hymne albanais au micro, se faisant huer par les fans de l'Albanie. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, le speaker est quand même toujours prévu ce mardi pour le match France-Andorre.
Les explications de Bruno Salomon, le licenciement n'est peut-être pas très
on espère qu'il ne se trompera pas cette fois, c'est bien Lander.
En rugby, troisième journée du top 14 aujourd'hui, Brive sort vainqueur du derby face à Clermont, 28-21. Ce soir, le choc de cette journée, le Stade Toulousain, amputé de ses internationaux partis pour la Coupe du Monde. Le Stade Toulousain affronte le Racing, le 92. Toulouse, le champion titre, lui, traîne en ce début de saison. Deux matchs, deux défaites, un seul petit point au compteur. Alors ce soir, la victoire serait plus que bienvenue. Et pourtant, écoutez, l'un des entraîneurs toulousains, Clément Pointrenaud, refuse cette pression du résultat.
C'est le troisième match de la saison, donc voilà, la saison elle est longue, très longue, on le sait, 26 rencontres, non, il n'y a pas de défaite interdite. Après, évidemment qu'on a tous à cœur de gagner ici, à domicile, pour se donner un peu d'air, pour aussi se donner un peu de confiance et se dire que ce groupe est capable d'eux. Maintenant, il n'y a pas de pression qui est mise de ce genre-là. Nous, la pression, on la met toujours sur le contenu, sur le rugby, sur la qualité du jeu produit, sur la qualité de l'engagement et de l'investissement de chacun des joueurs. La pression, elle est de ce côté-là, elle n'est pas sur le résultat.
Coup d'envoi de ce match entre Toulouse et le Racing à 21h.
Et le rugby encore, J-2, hein, moins deux semaines avant le début de la Coupe du Monde au Japon.
Oui, les Bleus sont arrivés il y a quelques heures au pied du mont Fuji pour préparer leur premier match. Ce sera face à l'Argentine le 21 septembre. Alors comme le top 14 se poursuit, on en a profité pour aller à la rencontre des fans de rugby, voir s'ils croyaient en leur bleu. Et vu Toulon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas très optimiste, Fanny Le Chevestrier.
Toulon, où la ferveur pour le rugby se vérifie chaque match à domicile, comme hier pour le retour des Rouges et Noirs au Stade Mayol. Mais il faut bien avouer que dès qu'on évoque les Bleus, là le soufflet retombe.
Ça m'emballe pas, l'équipe ne m'emballe pas. À vous dire au revoir, je ne les suis plus beaucoup. C'est pas qu'on n'aime pas les Bleus, c'est que c'est plutôt le staff qu'on n'aime pas.
Michel, supporter de rugby depuis qu'il est minot, a du mal à croire en cette équipe de France. Même sentiment chez les plus jeunes comme Jean-Baptiste, 23 ans. Quand on lui pose la question d'un exploit possible, la réponse fuse.
Vous y croyez ?
Pas du tout, honnêtement. J'ai suivi l'Argentine dans le Four Nations, c'est au-dessus de nous, pour moi.
L'Argentine, premier adversaire du 15 de France. Mais pour Christine, pas question de tout voir en noir. En plus, les Bleus ont un crack qui montre l'exemple et qui s'appelle Charles Olivon, le Toulonnais revenu de part après deux années de blessure.
Mon petit qui a été sélectionné envers et contre tout par rapport à son épaule.
Ah oui, Olivon, très bon joueur, mais bon, à lui tout seul, il peut pas faire une équipe.
Pour résumer, à Toulon, peu, voire personne n'y croit, mais ils seront tout de même tous au soutien.
La dernière Coupe du Monde, on séchait les cours au lycée pour aller voir les matchs à côté, donc oui.
Supporter, c'est pas que dans la victoire, c'est aussi dans la défaite. Je supporterai envers et contre tout.
Rendez-vous a donc pris pour le 21 septembre à 9h15 face à l'Argentine.
À noter que les Bleus ne sont pas arrivés seuls au Japon. Faxai, un cyclone historique, a frappé Tokyo quelques heures seulement après l'atterrissage de l'équipe qui a pu passer entre les gouttes. Côté staff, 4 tonnes de matériel ont également atterri pour peaufiner la préparation avant le premier match. On le disait le 21 septembre face au Pumas argentin.
Thomas Larabi, l'euro de volley à domicile en France, ça s'approche.
Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais forcément la com qui va avec est en train de se déclencher à 4 jours du début de la compétition. Vous verrez sans doute un visage partout à Nantes, à Montpellier et à Paris. Les trois villes où l'équipe de France de volley va disputer son euro. Ce visage, c'est celui d'Erwin Engapet, la star de l'équipe de France. Il est considéré même comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et avec cette exposition inhabituelle pour lui, écoutez ce grand Golgoth d'1m94 est tout gêné.
Au début, j'avais du mal parce que je détestais même. Mais en fait, on a beaucoup parlé et pour que le volley français prenne la place, ça passe vachement par nous. Donc ça veut dire les réseaux sociaux, faut que tu sois présent et les choses comme ça là, moi ça me saoule de voir ma tête là et des potes ils sont à Montpellier, ils me disent t'es sur le tram, c'est ça, mais j'aime pas ça. Mais ça passe par là pour que le volet il avance. C'est pas lourd parce que c'est, je sais pourquoi. Et après la chose aussi c'est que nous au volet on a une particularité, c'est que c'est comme ça pendant 3 mois et demi parce qu'on est en équipe de France et qu'on joue, mais après pendant 7 mois on ne voit plus quoi. Donc justement je préférais que ce soit plus long, parce que nous après c'est comme si on fait l'autre compète et entre guillemets on nous oublie, tu vois. Donc c'est compliqué.
Le premier
c'est
match,
touchant.
C'est touchant. Compliqué et touchant. Premier match des Bleus et pour Erwin Engapet, c'est jeudi prochain à Montpellier face à la Roumanie. Quelques mots de cyclisme. L'Américain Sepp Kuss remporte la 15e étape du Tour d'Espagne sur les hauteurs du Santuario del Acebo dans les Asturies. Le maillot rouge de leader est toujours sur les épaules de Primoz Roglic. Il s'est échappé avec l'Espagnol Alejandro Valverde, son principal rival, qui pointe toujours à 2 minutes 25. Le Français Nicolas Hédé pointe toujours à la 7e place.
Thomas Larabi pour Intersport. Merci Thomas.